Jane Fedel, bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Prague International. Merci d'être avec nous ce matin pour cette émission. Vous êtes française d'origine tchèque. Vous habitez à Prague depuis
5 ans et demi. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le tram pragois.
Et vous êtes guide touristique ?
Oui, tout à fait. J'ai lancé mon auto-entreprise de guide il y a presque un an. C'est le plus beau métier du monde.
Donc actuellement, on est à Čechovo Náměstí, dans Prague 10. Vous avez choisi de prendre la ligne 22 ce matin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Déjà parce que moi, c'est ici que j'habite. La ligne 22, c'est celle que je prends tous les jours et je la trouve trop chouette. Elle va partout. On traverse les plus beaux endroits de la ville.
On est sur une place qui est aussi un peu particulière, avec une église un peu particulière. Est-ce que vous pourriez décrire ce que vous voyez autour ?
Oui, alors l'église qui se trouve là, c'est l'église Saint-Venceslas. Elle est dans le style fonctionnaliste, donc un coin architectural du XXe siècle. Et cette église, elle est super intéressante parce que déjà, l'architecte qui l'a réalisée, c'est Joseph Gauchard, qui est assez connu notamment pour la maison à la Vierge Noire, la maison cubiste. Et voilà, c'est lui qui a fait cette église. C'était en 1929 pour le millénaire de Saint-Venceslas. Et voilà, c'est une église au début que je n'appréciais pas du tout. Et puis finalement, j'ai appris à l'aimer parce qu'en fait, elle est vraiment unique. Quand on rentre à l'intérieur, c'est assez surprenant parce que le chœur, en fait, c'est un immense vitrail rose. Et quand on est à l'extérieur, on voit c'est tout blanc, c'est un peu austère. Et quand on rentre, c'est cosy parce que la lumière est rose. C'est hyper spécial et j'adore ça.
Donc là, on vient de monter dans le tramway numéro 22 direction Bilaora. Est-ce que vous auriez des souvenirs particuliers dans le tramway de Prague et peut-être sur cette ligne 22 que vous prenez souvent ?
Oui, alors j'ai un souvenir en particulier, quelque chose qui m'a fait aimer la Tchéquie encore plus. Quand on est arrivé ici, on avait deux enfants qui étaient encore tout petits. Notre fils aîné avait 18 mois et le deuxième avait 2 mois. Et j'étais dans le tram 22 et mon petit grand s'agitait beaucoup et le bébé hurlait tout ce qu'il savait et j'arrivais pas à gérer. Et il y a une vieille dame qui a commencé à jouer avec mon grand pour le distraire, pour que je puisse en fait tout simplement m'occuper du bébé. Et j'ai aussi, c'est incroyable, je la connais pas cette dame, je parle pas sa langue, je lui ai rien demandé. Et en fait, spontanément, elle va m'aider et c'est vraiment quelque chose, je me suis dit mais oh, c'est incroyable ce pays où les gens sont si gentils avec les enfants.
Là, on arrive à l'arrêt Krimska.
Là, on est en train d'arriver du coup à Vinohrady, on quitte le quartier de Bolchevitsé et à Krimska, on va s'arrêter juste devant un immeuble que j'aime beaucoup parce que déjà il est très original de l'extérieur et aussi c'était là qu'est né le chef d'orchestre qui s'appelle Václav Talich. C'est un chef d'orchestre qui a vécu au XXe siècle et qui était notamment à la tête de la Philharmonie de Prague et il a été accusé après le départ des nazis d'avoir été un collabo. Et en fait, pas du tout. Il a conservé son poste. C'est pour ça qu'il a été accusé de ça. Mais en fait, il n'arrêtait pas de faire des petits actes de résistance passive. Par exemple, on lui dit on va faire un grand concert avec tous les dignitaires nazis. Et dit ok, on va jouer Ma Patrie de Smetana. Okay. Ou alors oui, bonjour, on a besoin de vous pour animer, pour diriger le concert de l'anniversaire de Hitler. Ouais. Désolé, je peux pas, j'y connais quoi. Et c'était ça tout le temps. Et donc finalement, il a été blanchi par la suite. Okay. Mais voilà, donc il est né dans cet immeuble-là. Là, on arrive à la station qui s'appelle Yana Masaryka. Et c'est une station, je ne savais pas qui c'était Yana Masaryk. Et du coup, j'avais recherché un petit peu, parce que Yana Masaryk, je connaissais le papa, mais je ne connaissais pas les fils. Et en fait, c'est un type formidable. Donc j'ai été vraiment touchée par l'histoire, parce que c'était le fils du coup du premier président de la Tchécoslovaquie. C'était un grand amour de son pays. Et lui, en fait, il avait vraiment milité pour que les Tchécoslovaques soient invités à la conférence de Munich. C'est la conférence qui a eu lieu en 1938, qui avait réuni la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et le but de cette conférence, c'était de trouver un moyen pour éviter la guerre. Et on a décidé de filer un morceau du territoire tchécoslovaque aux Allemands. Ce territoire, c'était les Sudètes. On connaît la suite, ça n'a pas du tout fonctionné pour éviter la guerre. Et surtout, les Tchécoslovaques n'ont absolument pas été consultés pour cette transaction qui finalement les dépouillait et qui n'a finalement servi à rien. Voilà, et Masaryk, par la suite, il est devenu ministre des Affaires étrangères et il est mort dans des circonstances assez douteuses. Les dernières enquêtes de 2003, je crois, pensent que c'était vraiment un assassinat. C'était juste après la prise du pouvoir par les communistes en 1948.
Là, on vient de passer Náměstí Milu, qui est aussi une place assez emblématique de Prague. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette place ?
Y a l'église Saint-Claude Mila, que j'aime beaucoup, qui est dans le style néo-gothique un peu classique, qui est construite en briques. Et cette église, elle vient juste là, il y a 2 ans, d'être élevée au rang de basilique mineure par le pape. C'était une simple église avant, comme il y en a beaucoup. Et en fait, les basiliques, c'est des églises un petit peu spéciales qui reçoivent en fait un espèce de tampon du pape pour dire c'est une église niveau 2, un petit peu d'une certaine façon. Et en fait, ça a été fait à l'occasion du 1100e anniversaire, je crois, de la mort de Saint-Louis-là. Donc pour fêter ça, le pape a accordé le titre de basilique à cette église Saint-Louis-là, donc c'est plus frais. Voilà.
Et est-ce qu'il faut des critères spéciaux pour qu'une église soit élevée au rang de basilique ?
Basilique, ça vient du grec, ça veut dire bien-aimé. Il faut que ça soit une église que les gens aiment, potentiellement aussi un lieu de pèlerinage, ou enfin qu'il y ait quelque chose d'un petit peu spécial. Et là, effectivement, c'est une église qui est emblématique. Et puis, il y avait effectivement cette date anniversaire de Saint-Louis-là. Saint-Louis-là, c'est quand même une figure importante dans l'histoire tchèque. C'est la première sainte tchèque à avoir été canonisée par l'Église catholique. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important dans la relation religieuse entre le peuple tchèque et l'Église. Donc ça, ouais, on va arriver du coup sur la place Charles, Karlovan Amnesty. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à voir là-bas. Notamment, il y a la grosse église baroque Saint-Ignace qui est vraiment super belle. Et sinon, place Charles, donc effectivement, c'était la plus grande place d'Europe au Moyen-Âge. C'est lorsque Charles IV a fait construire la nouvelle ville qu'il a organisée autour de trois places principales qui étaient des marchés à l'époque. Donc qui sont l'actuelle place Venceslas, la place Charles et Snizovanen Amnesty, j'arrive jamais à prononcer ce mot, qui est un petit peu plus loin, pas très loin de la gare Masarykovo-Nadrej. Voilà, donc c'était le marché aux bestiaux en fait à l'origine. C'était beaucoup moins glamour qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un joli parc. Et notamment, il y a des arbres aussi qui ont été plantés il y a très longtemps. Notamment, il y a un tilleul, je sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il a pas loin de 500 ans. C'est vraiment un arbre énorme. Et quand on le voit, c'est assez impressionnant. Ils ont même mis des structures en bois pour soutenir les branches tellement il devient lourd et vieux. Enfin, voilà, il a des béquilles comme une vieille dame.
Là, on va arriver à Narodni Trida. Est-ce que vous voudriez décrire le paysage ?
Cette maison-là qui est super intéressante, c'est la maison Diamant qui fait l'angle ici. C'est une maison dans le style cubiste. Et ce que je trouve vraiment amusant, c'est que juste à côté, il y a cette église baroque, l'église de la Sainte Trinité. Et en fait, entre les deux, il y a une statue baroque de Saint Jean Nepomucène. Et pour faire la liaison en fait, entre les deux types d'architecture, ils ont construit une niche pour la statue dans le style cubiste. Et donc ça fait vraiment le lien entre les deux bâtiments qui n'ont rien à voir en termes architecturaux, la statue baroque dans la niche cubiste qui fait le lien, je trouve ça super intéressant et super réussi aussi. Et donc là on va arriver sur l'avenue nationale, Narodni Trida, et c'est une très très belle avenue, c'est un peu la principale avenue de Prague, enfin entre autres, mais elle fait partie quand même des grands axes, et elle est super jolie aussi, elle est très large, très aérée, il y a des arbres et tout ça, elle est vraiment, vraiment très belle. Et là encore, il y a un vrai mélange dans les styles architecturaux parce qu'on a des petites maisons baroques. Il y a le Café Louvre devant lequel on passe, qui est un café vraiment emblématique de la ville. J'aime bien emmener ici mes clients parce que c'est sympa. Einstein et Kafka, c'était leur QG. Donc je dis ça à mes clients, ils sont trop contents de s'asseoir sur la chaise de Kafka ou d'Einstein. Puis après ça, il y a des très belles façades, genre là derrière vous. On va passer devant le palais Topić, qui est la première galerie privée, galerie d'art privée de Prague, qui a accueilli des immenses artistes.
Donc là, on est arrêté devant le Théâtre National.
Le Théâtre National, Narodni Diva, il est trop beau. S'il y en a qui nous écoutent et qui connaissent un peu la ville de Vienne, il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'architecture de ce théâtre et de l'Opéra de Vienne. On est quand même dans un style assez germanique. Et ce théâtre, il a une histoire assez amusante, c'est pas drôle. En fait, il a été construit avec une souscription nationale. À cette époque-là, on était encore ici en Autriche-Hongrie et les Tchèques avaient besoin vraiment d'affirmer leur propre culture, leur propre identité nationale. Et donc, ils avaient obtenu l'autorisation d'avoir un théâtre tchèque. Parce qu'il y avait déjà un théâtre allemand, c'est le théâtre des États. Et donc, ils ont lancé une souscription nationale pour avoir l'argent pour construire ce théâtre. Ça a été un tabac, ça a hyper bien marché. Tout le monde était super content de participer à l'éveil culturel national. Et donc ils font construire ce théâtre, ils l'inaugurent en grande pompe lors de la visite du prince héritier, l'archiduc héritier de l'Empire, etc. Ils donnent 11 représentations et puis ils referment le théâtre parce qu'il y avait encore 2-3 bricolages de déco à terminer. Enfin voilà, il fallait peaufiner un petit peu le décor. Et en fait, un peu comme à Notre-Dame de Paris, hein, parfois sur les chantiers, il y a des incendies. Et le théâtre a brûlé moins de 3 mois après son ouverture. Et donc ils ont dû le reconstruire. Il y a eu une nouvelle souscription nationale qui a hyper bien marché une nouvelle fois parce que du coup les gens étaient super. Enfin comme c'est un symbole national, ils l'ont aussi vécu comme un drame national. Et donc ça a été reconstruit assez rapidement et il a été réouvert par la suite.
Ok. Là, on vient de traverser le pont des Légions.
Ouais, alors je connais pas hyper bien l'histoire du pont. Je sais qu'avant, il portait le nom, je crois, de l'empereur François Joseph, et qu'il a été rebaptisé le pont des Légions. C'est une référence aux Légions tchécoslovaques qui se sont battus en fait contre l'Autriche-Hongrie pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des soldats qui ont décidé de déserter, voilà. Ils ont déserté l'armée locale pour aller se battre contre leur propre pays dans l'espoir d'avoir, de gagner la guerre avec les Alliés et d'avoir l'indépendance. Ça a fonctionné. Et donc ce pont a été rebaptisé en l'honneur de ces légions tchécoslovaques qui se sont battues à l'époque. Et c'est mon pont préféré à Prague. Il est trop joli déjà. Et en plus, c'est là qu'il y a le plus beau panorama. On voit vraiment tout. Parce que les gens souvent ils disent « Ouais, le pont Charles, il est super. » Oui, mais quand tu es sur le pont Charles, tu vois pas le pont Charles. Il manque au panorama. Alors sur le pont des Légions, on a vraiment une super vue sur le château, sur Malastrana, sur le pont Charles d'un côté. De l'autre côté, on a le théâtre devant lequel on vient de passer. Il y a la citadelle de Vyšehrad qu'on voit aussi de l'autre côté. Enfin, c'est vraiment l'endroit idéal pour avoir le plus beau panorama sur la ville.
C'est clair. Là, on vient d'arriver dans le quartier de Malastrana déjà, ou pas encore ?
On est dans Malastrana, exactement. On est en train de longer la colline de Pečin, qui est un endroit qui est super agréable et aussi très très prisé des Pragois. C'est un très grand parc qui fait en fait tout un pan de colline. Et il y a des vergers ici en fait. Il y a une tradition au mois de mai, le 1er mai, que les amoureux viennent s'embrasser sous les cerisiers en fleurs. C'est une tradition qui date du 19e siècle. Il y a un poète tchèque nationaliste qui s'appelait Karel Hynek Macha qui a écrit un poème qui parlait d'aller s'embrasser sous les cerisiers de Pečin. Et depuis, les gens le font vraiment. C'est devenu un peu la tradition, comme en France, on a vu du muguet le 1er mai. Ici, on vient à Pečin pour embrasser son amour. Très romantique.
C'est un peu comme un deuxième 14 février, en un sens.
Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Ouais. Là, on va arriver. Là, on est déjà à la station Elikhova. C'est la station déjà qui est la plus proche de l'ambassade de France et du mur John Lennon. C'est des endroits assez intéressants à voir aussi. Et puis, de l'autre côté, enfin là, on va passer devant bientôt. Il y a l'église Notre-Dame de la Victoire. C'est l'église qui accueille le petit Jésus de Prague. C'est une petite statuette miraculeuse. C'est tout petit, hein. Mais c'est un peu Notre-Dame de Lourdes locale. C'est un grand lieu de pèlerinage. Et en fait, le petit Jésus, c'est assez amusant parce qu'il a des vêtements. C'est une petite statue, elle fait 47 ou 48 cm, donc c'est vraiment petit. On lui change de vêtements régulièrement dans l'année en fonction de la période liturgique. Parce que quand on va à la messe, il y a des périodes un peu comme des saisons d'une certaine façon. Et chaque saison a sa couleur. Et donc, par exemple, pour les grandes fêtes, le petit Jésus, on lui met une robe blanche. Pour les fêtes du Saint-Esprit, on va lui mettre une robe rouge. Pour les fêtes du carême, enfin, pour le temps du carême ou de l'avant avant Noël, on lui met du violet, etc. etc. Donc, il change de vêtements. Et là, il a une immense garde-robe, je crois qu'il a 500 robes, un truc comme ça, qui sont offertes en fait. Il y en a une qui a été offerte par l'impératrice Marie-Thérèse, par exemple.
Voilà. On vient d'arriver à Malostranské náměstí. Il y a l'air d'avoir un petit marché à côté de nous.
Ouais, bah, c'est régulier, hein, il y a souvent des petits marchés ici. Et surtout ici, il y a l'église Saint-Nicolas qui est quand même un chef-d'œuvre architectural. Qui est incroyable, c'est la deuxième plus grande église du pays. La première plus grande, c'est la cathédrale de Prague. Mais même les autres cathédrales du pays sont plus petites que cette église Saint-Nicolas.